Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 27 juin 2023. En direct de Washington, Idrissa Seloulia pour commencer les titres. En Sierra Leone, le président sortant Julius Maada Bio, largement en tête au premier tour, selon des résultats partiels. Au Sahel, le trafic de drogue prospère grâce aux groupes armés, estime l'ONU. Au Soudan, l'armée s'est retrouvée en difficulté sur plusieurs fronts hier lundi. Le Nigérian Mohamed Ali Paté renonce à diriger l'alliance du vaccin. Le président américain Joe Biden assure que les Occidentaux n'étaient pas impliqués dans la rébellion de Wagner en Russie. En Arabie Saoudite, journée de prière et de recueillement sur le mont Arafat, près de la Mecque, pour les pèlerins au Hajj de cette année. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. En Sierra Leone, le président sortant Julius Maada Bio est en tête de l'élection présidentielle avec 55,86% des voix, après 60% du dépouillement selon les chiffres partiels fournis hier par la commission électorale. John Linden.
Avec 1,067,666 voix, Julius Maada Bio obtient 55,86% et devance Samora Camara qui a reçu 793,751 voix, soit 41,53% des suffrages, selon les chiffres donnés hier par Mohamed Kenewi Kone, président de la commission électorale. Les résultats définitifs seront annoncés dans les 48 heures, a-t-il précisé. Si les tendances se poursuivent, M. Bio sera réélu pour un second mandat, car le candidat qui recueille plus de 55% des suffrages est élu dès le premier tour. Quelque 3,4 millions d'électeurs étaient appelés samedi à choisir entre 13 candidats pour la présidentielle, un scrutin aux allures de revanche de 2018 entre M. Bio, ancien militaire à la retraite de 59 ans, qui brigue un second mandat, et M. Camara, technocrate de 72 ans. Les forces de sécurité ont violemment dispersé dimanche soir des opposants à Freetown au siège du parti APC. L'élection globalement s'est déroulée dans le calme dans un pays qui a déjà vécu 11 années de guerre civile meurtrière.
Le trafic de drogue continue de prospérer au Sahel grâce aux groupes armés non étatiques qui y sont très actifs, indique l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans son rapport 2023 publié hier à Niamey. Selon l'ONUDC, les quantités de cocaïne saisies au Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad ont bondi l'an dernier. Elles passent de 13 kilos par an entre 2015 et 2020 et 35 kilos en 2021 à 863 kilos en 2022. Depuis des années, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont confrontés à des bandits armés ou des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique au Grand Sahara. Au Soudan, alors que la guerre entre dans sa 11e semaine, les paramilitaires des forces de soutien rapide se sont emparés du quartier général de la police à Khartoum. L'armée s'est retrouvée en difficulté sur plusieurs fronts à Khartoum et dans le sud qui borde l'Éthiopie. Un groupe rebelle a ouvert un nouveau front contre l'armée. Nanit Talani.
Dans un communiqué, les forces de soutien rapide ont déclaré avoir pris le contrôle total du quartier général de la police de Khartoum et publier des images de leurs combattants célébrant à l'intérieur de l'installation, certains retirant des boîtes de munitions d'un entrepôt. « Nous avons saisi un grand nombre de véhicules, d'armes et de munitions », affirment les FSR, énumérant des dizaines de pick-up, de blindés et de chars. Ce n'est pas une victoire militaire, mais une attaque flagrante contre les institutions de l'État qui protègent les civils, a rétorqué l'armée. Hier matin, des habitants de Kourmouk, sur la frontière avec l'Éthiopie ont rapporté qu'un groupe rebelle a lancé une attaque contre l'armée. Ce même groupe avait déjà ouvert jeudi un nouveau front au Kordofan Sud, frontalier du Soudan du Sud, obligeant l'armée à se battre sur différents fronts dans le sud. Les combats se poursuivent également à Niala, chef-lieu du Darfour Sud, où des habitants ont fait état de tirs intenses de l'artillerie. Chaque jour, de nouveaux déplacés fuient les combats et les pillages. Plus de 2,5 millions de personnes ont quitté leur maison et, selon l'ONU, plus d'un demi-million ont traversé les frontières vers l'Égypte au nord et le Tchad à l'ouest.
Les États-Unis ont mis en garde hier contre un retrait précipité de la MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, estimant que le pays ne serait pas prêt pour un tel retrait fin 2023. L'importance de la MONUSCO pour la RDC et la région est claire. C'est pourquoi les États-Unis sont inquiets de la multiplication des appels du gouvernement des RDC à un retrait de la mission après les élections de décembre, a déclaré l'ambassadeur américain adjoint à l'ONU, Robert Wood, lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation dans le pays. Mohamed Ali Paté, ex-responsable de la santé au Nigeria, au responsable de la Banque mondiale et professeur à l'université Harvard, a renoncé à prendre les rênes de l'alliance du vaccin Gavi qui œuvre à la fourniture de sérums dans les pays à faible revenu. Le point avec Lionel Gahima.
Le docteur Mohamed Ali Paté a informé le conseil d'administration de Gavi qu'il a pris une décision difficile d'accepter une demande de retour à son pays d'origine, le Nigeria, a annoncé hier l'alliance dans un bref communiqué sans plus de détails. Le docteur Paté devait succéder à l'Américain Seth Beckley qui dirige l'organisation depuis 2011. Le communiqué précise que l'actuel numéro 2 de l'alliance, David Morrow, va prendre la direction intérimaire à partir du 3 août. Gavi est un partenariat public-privé qui rassemble les pays donateurs et bénéficiaires, l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie du vaccin et la fondation Bill & Melinda Gates. Gavi a permis de réaliser environ 6 milliards de vaccinations dans le monde et de protéger les enfants et adultes contre 19 maladies infectieuses. Il gère aussi les stocks des vaccins contre le choléra, la fièvre jaune, les infections en méningocoque et la maladie à virus Ebola. Par ailleurs, Gavi a joué un rôle pivot dans le mécanisme COVAX qui visait à fournir aux populations des pays pauvres des vaccins anti-Covid.
La rébellion avortée du groupe Wagner en Russie a montré le risque posé par l'organisation de mercenaires dans les États africains qui s'associent avec eux, a indiqué lundi le département d'État américain. Le message que nous avons transmis à ces pays en public et en privé par le passé est qu'à chaque fois que Wagner entre dans un pays, mort et destruction s'ensuivent, a déclaré à des journalistes le porte-parole de la diplomatie américaine. Wagner exploite les populations locales, nous les voyons extraire les richesses locales, commettre des violations des droits humains, a ajouté Matthew Miller.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a estimé hier qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions définitives après la rébellion avortée du groupe Wagner en Russie. Il a assuré que les Occidentaux n'avaient rien à voir avec ces événements. Rosine Munezero.
Nous n'étions pas impliqués, nous n'avons rien à voir avec ces événements, a souligné le président américain en faisant référence en particulier à l'OTAN, avant d'ajouter qu'il s'agissait d'un problème interne à la Russie. Joe Biden a assuré que les Américains et leurs alliés ne voulaient donner aucun prétexte au président russe Vladimir Poutine pour accuser les Occidentaux et pour accuser l'OTAN. Monsieur Biden a indiqué aussi rester en contact constant avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à qui il a parlé dimanche pour l'assurer du soutien des États-Unis. La spectaculaire équipée du groupe paramilitaire Wagner entre vendredi et samedi a ébranlé la Russie. Pendant 24 heures, les forces d'Evgeny Prigojine se sont emparées de plusieurs sites militaires dans la ville stratégique de Rostov, dans le sud-ouest, et ont parcouru des centaines de kilomètres en direction de Moscou. Le chef de Wagner a mis fin à sa rébellion samedi soir en échange d'une immunité promise par le Kremlin pour lui et ses hommes.
Le président russe Vladimir Poutine s'est posé lundi soir en garant de la paix intérieure en Russie, assurant avoir évité un bain de sang lors de sa première déclaration publique depuis la brève rébellion de Wagner et que son chef Evgeny Prigogine a justifié pour sauver le groupe paramilitaire et non pour s'emparer du pouvoir. Monsieur Poutine a accusé l'Ukraine et l'Occident de souhaiter une telle issue fratricide. Il a aussi accusé encore le patron de Wagner, sans le nommer, d'avoir trahi son pays et son peuple tout en mentant à ses hommes. En Arabie Saoudite, pour les pèlerins, s'ouvre ce mardi une journée de prière et de recueillement sur le mont Arafat, près de la Mecque, étape la plus importante du Hajj, le grand pèlerinage musulman. La Minute Éco, Nanit Talani.
Le monopole d'importation de la compagnie pétrolière nationale nigériane, ENPC, prendra bientôt fin après que le régulateur de l'industrie a autorisé les entreprises privées à commencer à importer de l'essence à partir de juillet, a annoncé l'autorité de régulation du pétrole. Le Nigeria importe la quasi-totalité de son carburant raffiné car les raffineries locales ont été fermées. La ENPC a été le seul importateur de pétrole utilisant des contrats d'échange de brut. Au Zimbabwe, l'inflation annuelle est passée de 86,5% en mai à 175,8% en juin, selon les données publiées lundi. Cela aggrave une crise des prix avant une élection cruciale. L'inflation d'un mois à l'autre a augmenté de 58,8 points de pourcentage en juin pour atteindre 74,5%, a déclaré l'Agence des statistiques du Zimbabwe. Pour terminer, au Kenya, le président William Ruto a promulgué un projet de loi budgétaire qui introduit de nombreuses nouvelles taxes, notamment une augmentation de la TVA sur les carburants de 8 à 16% et un prélèvement impopulaire sur les salaires pour financer un programme de logements sociaux et renflouer les caisses de l'État lourdement endettées. La dette publique du Kenya culmine à 65 milliards d'euros, soit environ 67% du PIB, et son remboursement est plus coûteux avec la dépréciation continue du shilling, la monnaie locale.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Début ce mardi de la deuxième journée de la CAN des moins de 23 ans.
Oui, deux matchs au programme. Le pays hôte, le Maroc, victorieux lors du match inaugural, 2-1 face à la Guinée, va essayer de renforcer sa position devant le Ghana. Toujours dans cette poule A, le Congo est dans une opération relance après sa défaite d'entrée devant le Ghana, 3-2.
Transfert, Kalidou Koulibaly rejoint Al-Hilal.
Le défenseur international sénégalais va quitter Chelsea pour évoluer avec l'équipe saoudienne d'Al-Hilal. L'annonce est faite par le club anglais qui ne précise pas le montant du transfert, mais la presse évoque une indemnité de transfert autour de 23 millions d'euros pour un joueur acheté à 38 millions d'euros il y a un an. Le joueur de 32 ans avait rejoint la capitale londonienne l'été dernier en provenance de Naples, mais il a globalement déçu lors d'une saison très compliquée pour les Blues qui ont fini 12e de Premier League et connu trois entraîneurs différents. Kalidou Koulibaly a tout de même disputé 32 matchs sous le maillot bleu. D'autres joueurs africains comme le Marocain Hakim Ziyech, le gardien Edouard Mendy, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang sont ciblés par des clubs du Royaume.
Victor Wembanyama renonce au Mondial 2023 avec les Bleus.
La nouvelle sensation de la NBA a annoncé qu'il ne participerait pas au Mondial 2023 avec la France, évoquant un sacrifice nécessaire. Victor Wembanyama va disputer sa première saison avec les San Antonio Spurs. Ce ne serait pas réaliste en termes de développement et pas prudent en termes de santé, a affirmé Wemby. L'ancien joueur des Métropolitains, 92, a jugé ce choix à la fois irrévocable et frustrant. Il a ajouté qu'une participation au prochain mondial du 25 août au 10 septembre en Asie aurait signifié un total de 170 matchs en 24 mois, en y incluant la saison à venir et les Jeux olympiques de Paris 2024. Wembanyama a assuré que sa nouvelle franchise en NBA n'a pas fait pression pour qu'il renonce au mondial.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Réaction en Guinée après la comparution du ministre de la Justice devant un tribunal à Conakry. Il est visé par une plainte des activistes du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, pour diffamation et abus d'autorité. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
À la barre, Charles White a nié les faits qui lui sont reprochés. La comparution du ministre de la Justice, garde des Sceaux, est un signal fort, selon cet enseignant.
C'est un signal fort que le ministre de la Justice, par ce acte, envoie pour dire, écoutez, personne n'est injusticiable. Mais de l'autre côté aussi, je vois un autre angle. En tant que citoyen, je me dis, est-ce que c'est pas une façon de dire, là où un ministre a comparu, voilà, ce n'est pas du tout un leader politique, qui qu'il soit, mais voilà, peut se soustraire de la justice.
Si cette comparution est qualifiée d'historique par certains Guinéens, d'autres, à l'image d'Alpha Baldé, sont convaincus qu'il s'agit d'une opération de communication.
S'il doit être jugé, c'est devant la Haute Cour de justice. Donc, il sait que la procédure n'aboutit là-bas. Il a profité de l'occasion pour aller juste faire sa communication, avoir une publicité devant l'opinion.
En tant que ministre et magistrat, Charles Wright reste protégé et la plainte du FNDC a très peu de chances d'aboutir, explique le juriste. Mamoudou Diakité.
Il bénéficie d'une double protection qui fait qu'il ne peut pas être poursuivi devant une juridiction de droit commun. En tout cas, la procédure a toutes les chances d'avorter. Maintenant, par rapport à sa comparution, vous savez, quand vous êtes convoqué devant la justice, c'est une question de forme d'abord. Vous devez vous présenter. Quel que soit votre statut, quelles que soient les raisons que vous avez pour ne pas venir, vous devez venir. C'est une obligation de principe qui fait que le ministre de la Justice s'est déplacé pour être devant le juge.
Le ministre guinéen de la Justice s'est présenté le 23 juin devant le juge à Conakry. Ses avocats ont demandé au tribunal de première instance du Dixin de se déclarer incompétent. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Afrique, les instructeurs russes du groupe Wagner sont, selon les Occidentaux, en première ligne au Mali et en République centrafricaine, où un cadre du groupe Wagner qui gère la sécurité du président Faustin Archange Touadéra, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré que la révolte avortée du week-end ne changerait rien aux relations de la Russie avec ses alliés africains. Idriss Fall a recueilli la réaction de Fidel Gwandjika, ministre conseiller spécial du président centrafricain.
Mais non, pas du tout, parce que la République centrafricaine a signé un accord de défense avec la Fédération de Russie. Il y a eu, du côté de la République centrafricaine, le ministre de la Défense et du côté de la Fédération de Russie, le ministre des Armées. Donc on a signé un accord de défense liant les deux pays. Notre président de la République a été reçu par le président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie. Et nous avons établi une bonne relation diplomatique, militaire, civile, économique et sociale. Ce qui s'est passé vendredi, samedi et peut-être dimanche, c'est une affaire russo-russe entre deux sommités de la Russie. Donc la République centrafricaine observe ce qu'on appelle la neutralité. Nous n'avons pas le droit de nous immiscer dans les affaires internes de la Fédération de Russie. Ce qui s'est passé là-bas, ça n'impacte pas sur notre coopération militaire avec la Fédération de Russie.
Mais celui qui représente le groupe Wagner à Bangui a été nommé et choisi par Yevgeny Prigozhin.
Non, pas du tout. Nous avons signé un accord de défense, je le répète, avec la Russie. La Russie nous a mis à disposition des instructeurs russes pour former nos forces de défense et de sécurité intérieure, y compris les forces armées centrafricaines. Et la Fédération de Russie a sous-traité les paramilitaires russes que l'Occident appelle Wagner pour nous aider à nous défendre contre les terroristes et les mercenaires venus de l'étranger avec des groupes armés qui ne respectent pas les accords de Bangui. Et ceux-là, ils sont venus payés par la Russie. Et pour nous, il n'y a aucun problème. Le problème de M. Prigozhine et M. Russe, c'est une affaire qu'ils doivent régler entre eux là-bas, mais ça n'impacte pas sur la présence des soldats que vous appelez Wagner. Pour nous, c'est des Russes qui sont là et nous continuons de faire avec eux, d'avoir confiance à eux jusqu'à nouvel ordre du Kremlin.
Fidel Gwandjika, ministre conseiller spécial du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Les États-Unis suivent de très près ce qui s'est passé en Russie après la révolte avortée du groupe Wagner. Pour le patron du département d'État, il y a des fissures au sommet de l'État russe et Washington va continuer son soutien à l'Ukraine. Veronica Balderas Iglesias de la VOA décrit ce que certains analystes pensent de cette rébellion éphémère du groupe Wagner. Le récit est de Lionel Gahima.
Un dimanche calme dans la capitale russe, au lendemain de la révolte des Evgeny Prigozhin, chef du groupe Wagner, et de ses troupes qui ont voulu marcher sur Moscou. Cela s'est terminé par un accord conclu avec la médiation du Bélarus. L'impact éventuel de ces défis armés sur le régime du président russe, Vladimir Poutine, n'est pas clair. Ces dernières semaines, Prigozhin s'est montré de plus en plus critique à l'égard des chefs militaires russes et leur gestion de la guerre en Ukraine. Washington suit la situation de près, a déclaré le secrétaire d'État Anthony Blinken sur la chaîne ABC.
L'idée que cette guerre, cette agression de la Russie était menée sous de faux prétextes, l'idée que l'Ukraine ou l'OTAN représentait en quelque sorte une menace pour la Russie et qu'elle devait y faire face militairement, cette idée est maintenant beaucoup plus évidente qu'elle ne l'était, qu'elle ne l'a été. Nous ne savons pas encore ce qui va en résulter.
Le soutien aux forces ukrainiennes restera la priorité des États-Unis, a ajouté Blinken.
Dans la mesure où les Russes sont distraits et divisés, cela peut rendre plus difficile la poursuite de l'agression contre l'Ukraine. D'un autre côté, il est évident que l'instabilité, quelle qu'elle soit, dans un grand pays comme la Russie, qui est une grande puissance, est une source d'inquiétude.
En acceptant de ne pas poursuivre les rebelles Wagner, Poutine a peut-être pu limiter les dommages à sa propre réputation, estime Marina Miron, experte en études des défenses.
Il n'y a pas eu d'effusion de sang. Poutine savait donc exactement sur quel bouton appuyer et il a réussi à régler la situation en coulisses.
Si, dans le cadre de l'accord, le chef de Wagner se trouve effectivement au Bélarus, il pourrait encore jouer un rôle dans la guerre contre l'Ukraine, a déclaré à Sky News, le général à la retraite, Richard Denat, ancien chef d'état-major général des forces armées britanniques.
S'il s'est rendu au Bélarus et a conservé une force de combat efficace autour de lui, il représente à nouveau une menace pour le flanc ukrainien le plus proche de Kiev.
Le secrétaire d'État Anthony Blinken, dont l'administration était, selon le New York Times, au courant des intentions de Prigozhin, a déclaré que cette révolte soulevait des vraies questions et révélait des réelles fissures. Il a expliqué dimanche ne pas pouvoir spéculer ni dire exactement où cela va mener. Nous savons seulement, a-t-il dit, que Poutine devra répondre à de nombreuses questions dans les semaines et les mois à venir.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les déplacés de guerre traversent une situation humanitaire alarmante dans différents camps autour de la ville de Goma. Ils ne reçoivent presque plus d'assistance et l'ONG Médecins sans frontières appellent à la mobilisation internationale pour leur venir en aide. Reportage de Zanem Netizaili, notre correspondant à Goma.
Alphonsine Doussabé et ses 5 enfants venus des Rumangabo, un territoire de Rutshuru, font déjà une année dans les camps de Kanyaruchinya. Ils n'ont été assistés qu'une seule fois.
Nous sommes arrivés ici au mois de juillet 2022. Peu de temps après, nous avions reçu une assistance. Mais depuis lors, nous n'avons rien reçu. Pour survivre, je passe des journées à Kimandé dans la cité. Nous sommes délaissés par ici.
Cette situation pousse plusieurs femmes à se rendre régulièrement dans les parcs de Virunga à la recherche des bois de chauffage. Selon Placide Birihanze, la 60aine, raconterait devant sa cabane construite avec une bâche déjà déchirée.
Cette bâche qui est sur ma cabane, c'est ma femme qui avait fui avec. Aujourd'hui, le gouvernement ne nous assistait pas et ça va bientôt faire 5 mois que je n'ai rien reçu en termes d'assistance. C'est la femme qui va régulièrement dans les parcs pour chercher des bois et là-bas, elle croise des bandits qui les violent. Depuis avant-hier, je n'ai rien mangé. Même de l'eau, je demande chez les voisins. Nous allons certainement mourir de faim.
Nombreux acteurs de la société civile des Rutshuru, dont Justin Bizimana, qui est aussi déplacé des guerres, fustigent le fait que le gouvernement congolais aurait laissé la charge de l'assistance aux seules organisations humanitaires nationales et internationales. Il souhaite un retour de la paix pour retourner chez lui.
Le gouvernement semble relâcher en tout cas ces populations meurtru. Il y a évidemment certaines ONG qui interviennent, mais à pas pesant et avec des maigres moyens. C'est pourquoi nous demandons à notre gouvernement de tout faire pour libérer les zones de provenance pour que nous puissions rentrer chez nous. Parce que même s'il y aurait assistance, mais on nous assistera pour combien de temps?
Foura Sassou, chef de mission de l'organisation Médecins Sans Frontières en RDC, affirme avoir pris en charge plus de 2000 cas de violences sexuelles depuis janvier 2023 et appelle à une mobilisation internationale pour résoudre les besoins humanitaires qui s'observent dans des camps de déplacés.
Depuis le début de l'année, MSF a pris en charge plus de 2100 victimes de violences sexuelles. Quant aux femmes, beaucoup sont contraintes de quitter les camps et leurs familles pour tenter de trouver de nourriture ou collecter des bois à l'extérieur. S'exposant ainsi au risque de viol, notamment sexuel, MSF appelle urgentement à une plus grande mobilisation et coordination de la part de tous les acteurs pour mettre en place une réponse à la hauteur des besoins.
Selon les derniers chiffres donnés par MSF, plus de 60 000 personnes ont fui la guerre et se retrouvent dans des sites improvisés autour de la ville de Goma. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
Merci Zanem. En Arabie Saoudite, et je le disais tout à l'heure, pour les pèlerins, s'ouvre ce mardi une journée de prière et de recueillement sur le mont Arafat, près de la Mecque, étape la plus importante du Hajj, le grand pèlerinage musulman. Dès l'aube, de nombreux fidèles ont afflué vers le site religieux où le prophète Mohammed aurait prononcé son dernier sermon. Après avoir passé la nuit dans des tentes climatisées à Mina, une vallée entourée de montagnes rocheuses située à 7 km de la grande mosquée de la Mecque. Ils passeront la journée à prier et à réciter le Coran sous un soleil de plomb, avant de dormir en plein air à Muzdalifa, à mi-chemin entre Mina et le mont Arafat. Avant de se séparer, un rappel des titres. En Sierra Leone, le président sortant Julius Maada Bio largement en tête au premier tour, selon des résultats partiels. Au Sahel, le trafic de drogue prospère grâce aux groupes armés, estime l'ONU. Au Soudan, l'armée s'est retrouvée en difficulté sur plusieurs fronts hier lundi. Le Nigérian Mohamed Ali Paté renonce à diriger l'Alliance du vaccin. Le président américain Joe Biden assure que les Occidentaux n'étaient pas impliqués dans la rébellion de Wagner en Russie. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.